poser la question de la nature des quasars et de leur formation, c'est un peu poser la question astrophysique de l'œuf ou la poule. Les quasars, ces trous noirs supermassifs et hyper lumineux, distants pour certains de plusieurs dizaines de milliards d'années-lumière, sont-ils des dévoreurs de galaxies, le principe qui cause leur extinction, ou sont-ils à l'inverse l'étincelle qui allume et accélère la formation des étoiles? Découverts il y a une petite cinquantaine d'années à peine, les quasars sont encore des objets mal compris qui posent de nombreuses énigmes aux astrophysiciens. Quasars, les gardiens de la galaxie, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour éclairer ces objets qui sont déjà ô combien lumineux, nos deux pourvoyeurs de lumière interstellaire sont aujourd'hui Pasquier Notre-Dame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Limousin à Limoges avec Suzy Collinzane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne et chercheuse honoraire à l'Observatoire de Paris-Meudon. Vous avez publié aux éditions EDP « Des quasars au trou noir ». Vous pouvez nous suivre évidemment comme chaque jour sur le fil Twitter de l'émission en vous abonnant au compte @laméthodefc pour voir certaines des vues d'artistes magnifiques de ces quasars interstellaires. On va commencer par une question très simple, par le commencement, qui est une question qui est certainement beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce que c'est qu'un quasar, Pasquier Notre-Dame?
Alors, je pense que cette question, je vais laisser Suzy y répondre, puisqu'elle a vécu l'historique de la découverte des quasars. Mmh. Et donc, je lui laisse la parole sur cette question.
Alors, Suzy Collinzane, qu'est-ce que c'est qu'un quasar?
Alors, écoutez, pour vous répondre, je vais simplement décrire justement la façon dont on les a découverts. C'était en 1960, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, et j'étais déjà en recherche. En 1960, on cherchait à comprendre ce qu'étaient des sources qui rayonnaient dans le domaine radioélectrique. Et pour ça, on essayait de photographier avec le grand télescope du Mont Palomar des étoiles qui se trouvaient tout près de ces sources. Et c'est ainsi qu'un jour, un astrophysicien a trouver une étoile relativement faible, mais enfin il pouvait quand même en avoir une belle photo, et il en a pris immédiatement un spectre, puisqu'il avait la chance de disposer du 5 mètres du Mont Palomar. Alors vous savez sans doute que ce que c'est qu'un spectre, quand on décompose la lumière, par exemple par un prisme, on a une espèce de d'arc-en-ciel, et si on met entre la source de lumière qui peut être par exemple, je ne sais pas, le soleil et le prisme, une source comme une lampe à incandescence au néon par exemple, il y a des raies spectrales qui se trouvent à des positions très particulières dans le spectre. Mmh. Alors, il a donc pris un spectre de cet objet qui était le numéro 48 d'un catalogue de sources radio, et il a été très étonné de trouver des raies spectrales qui ne se trouvaient absolument pas aux endroits qu'on connaissait, aux positions qu'on connaissait dans les spectres habituels de laboratoire ou des étoiles ou d'autres choses. Donc, il a rangé soigneusement ce spectre dans son tiroir, et pendant 3 ans, personne n'en a entendu parler, parce que on pouvait pas du tout comprendre ce que c'était. Mmh. C'était le premier quasar découvert. Alors, comment s'est-on aperçu que c'était un quasar? Alors, le mot quasar signifie quasi-stellar, quasi-star, si vous voulez. Mm-hmm. Et c'est une contraction qui a été donnée par un chercheur chinois en 1964. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que la plupart des gens me demandent « Ah, quasar, c'est comme des pulsars. Mm-hmm. » Ça n'a rien
à voir.
Absolument rien à voir avec les pulsars. C'est simplement la fin du mot qui est la même. Donc, en 1962, il y avait une autre source, comme ça, qui avait, c'est-à-dire radio, qui avait la chance de passer derrière la Lune. Et dans ces conditions, lors du passage, quand elle arrive derrière la Lune et quand elle en sort, on peut mesurer avec beaucoup de précision la position de la source. Donc, un radioastronome qui s'appelait Hazard, d'ailleurs c'est assez amusant, en Australie, a observé cette source. Il a trouvé un objet qui était exactement à la place de la source. Il a su déterminer la position de la source à une très grande précision près. Il a envoyé immédiatement cette position à un astronome qui était au Mont Palomar, qui en a fait une photo, qui en a pris un spectre. Et surprise, ce spectre présentait aussi des raies spectrale totalement incompréhensible, mais il se trouvait que l'astronome qui avait pris ce spectre était très intelligent et qu'il a compris tout de suite qu'il s'agissait de raies spectrales normales, mais décalées vers le rouge, toutes de la même quantité. Et on a ressorti le premier quasar du tiroir, on a trouvé qu'il s'agissait de la même chose. Alors, qu'est-ce que c'était ces raies spectrales très décalées ? Eh bien, c'était des raies qui se trouvaient décalées très fortement vers le rouge parce que elles traduisaient une vitesse d'éloignement de ces objets qui était de plusieurs dizaines de milliers, voire 100 000, 200 000 kilomètres par seconde, c'est-à-dire presque la vitesse de la lumière. Or, cette vitesse est incompatible avec un objet qui est lancé lourd, ça serait une énergie effroyable, on a compris qu'il s'agissait d'objets très lointains qui étaient décalés par ce qu'on appelle l'expansion de l'univers.
C'est ça, donc, fameux décalage vers le rouge de l'expansion de l'univers dont on a déjà beaucoup parlé au cours de cette émission. La première publication, vous l'avez noté, Suzy Collinzane, est de 1963. On définit souvent les quasars aujourd'hui comme les objets les plus lumineux de l'espace. On va parler des quantités faramineuses d'énergie qui sont déployées, qui sont rejetées par ces objets. Comment se fait-il qu'on ne les ait pas observés plus tôt et qu'il ait fallu autant de temps pour comprendre ce que c'était ?
Tout simplement, alors pourquoi ne les a-t-on pas observés plus tôt ? C'est parce que ce sont des objets faibles, que ça
parce que très lointain,
Parce que justement très lointain, puisque l'éclairement varie comme l'inverse du carré de la distance, donc ces objets sont situés à 5 milliards, 10 milliards d'années-lumière, donc ils sont très lointains et donc par conséquent, bien que très lumineux, ils sont quand même très faibles vu de la Terre. Alors par exemple, le 3C273, qui était le deuxième objet qui a été observé, celui sur lequel qui a permis de comprendre vraiment ce qu'étaient les quasars, eh bien il est d'une magnitude 13 qui vous dit pas grand-chose pour ceux qui sont pas des astronomes amateurs, mais son rayonnement, quand on le replace à la distance où il se trouve, c'est-à-dire à 2-3 milliards d'années-lumière, eh bien, il est équivalent à 1000 fois notre galaxie, la Voie lactée, c'est-à-dire 1000 fois quelque chose qui contient 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc, vous voyez, c'est un objet terriblement lumineux, comme 1000 galaxies, typiquement. Bon, est-ce que vous voulez que je continue ?
Non, mais c'est parfait. La question, encore une fois, pourquoi je vous disais pourquoi est-ce que ça a été si difficile de comprendre la nature exacte au début ? On savait pas très bien parce que vous disiez un quasar, c'est pour quasi-star. En fait, je crois, corrigez-moi si je me trompe, que l'acronyme exact c'est quasi-stellar astronomical radio source parce que beaucoup de quasars émettent aussi des ondes radio. Il a fallu un peu de temps avant de comprendre exactement ce que c'est qu'un quasar. Alors finalement, je vous reposais la même question qu'au début. À l'un et à l'autre, Suzy Collinzane et Pasquier Notre-Dame, c'est quoi exactement que cet objet si lumineux ? Qu'est-ce que c'est en fait qu'un quasar ? Suzy
Alors,
Collinzane.
Je vais quand même continuer encore un tout petit peu justement, bien sûr. Puisque alors on arrive maintenant à une période que j'ai bien connue parce que je l'ai vécue, c'est que en 1965, on s'est aperçu que ce fameux quasar dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, il était variable et il variait dans des temps très court, relativement au temps dont on a l'habitude pour des objets très grands. Alors, j'essaye d'expliquer. Le quasar en question, c'était une étoile variable qu'on avait sur les catalogues d'étoiles variables, qui variait typiquement en une semaine, en quelques jours. On a depuis maintenant des objets qui varient bien plus vite que ça. Mais déjà, à l'époque, c'était très, très curieux. Parce que, imaginez un objet qui rayonne comme 1000 galaxies et qui est plus petit beaucoup plus petit que notre propre galaxie. Voyez pourquoi ? Parce que si vous imaginez que notre galaxie variait d'un seul coup, c'est-à-dire que par exemple elle s'éteignait ou elle s'allumait d'un seul coup, eh bien on ne verrait pas ça en une semaine, on verrait cette variation en 100 000 ans, parce que notre galaxie, elle a 100 000 ans et que la lumière met à peu près 100 000 ans à la traverser, et que c'est la lumière qui est source de toutes nos informations. Donc, on savait d'emblée que cet objet terriblement lumineux, en même temps, il variait, et il était donc très petit, il avait moins d'une semaine lumière. Moins d'une semaine lumière, c'est à peine plus grand que notre propre système solaire. Et depuis cette époque, on a trouvé des autres quasars qui ont largement la dimension, même un peu plus petite que notre système solaire. Et tout ça pour une énergie rayonnée qui est plus grande que 1000 fois notre galaxie.
C'est ça, donc un objet extrêmement compact, extrêmement lumineux. Mais alors du coup, de quoi c'est composé ? Qu'est-ce que c'est finalement qu'un quasar ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Quelle est la matière ? De quoi c'est constitué en quelque sorte ? Je vais donner la parole à Pasquier Notre-Dame, un peu, qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure.
Oui, donc en fait, ces objets, comme l'a expliqué Suzy, on mit très longtemps, enfin au début, on a mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinairement lumineux dans des dimensions qui sont extrêmement petites. Et les premières recherches ont montré qu'on ne pouvait pas expliquer ça avec, par exemple, un ensemble d'étoiles très compact. Enfin, la luminosité est telle qu'on n'arrive pas à faire ça avec des réactions nucléaires, celles qui font que les étoiles brillent.
Ça ne marche pas, équations ne fonctionnent pas.
Ça ne marche pas. Et c'est justement en essayant de résoudre ce problème-là, en disant mais c'est peut-être des super étoiles ou on ne sait pas trop, bon, que ça a tâtonné un petit peu à droite, à gauche. Et jusqu'à ce qu'a été proposé le modèle de l'accrétion sur un trou noir. Donc en fait, le quasar, nous avons un trou noir qui est hypermassif, donc de plusieurs millions de masses solaires. Donc on compte en quantité de masses solaires. Et nous avons un disque d'accrétion, enfin du gaz avec de la poussière qui est accrété sur ce trou noir qui tourne autour et qui par friction va chauffer à des températures extrêmement élevées et va mettre énormément de lumière. Donc ça, c'est un peu la version courte de...
C'est ça, c'est la structure. Quand on voit, nous sommes en train de poster sur Twitter un certain nombre de représentations de vues d'artistes de ces quasars. Donc on voit effectivement un disque d'accrétion avec un centre extrêmement lumineux et des jets de chaque côté, des jets perpendiculaires à ce disque d'accrétion. C'est quoi ces jets ?
Alors là, ce que vous avez montré, si vous préférez l'image que vous avez mis en ligne, en fait, ce qui est représenté là, je crois que c'est même plus la galaxie, en fait. Donc on sait que les quasars se trouvent au centre de galaxies. Ça fait partie des classes des noyaux actifs de galaxies. Et donc, en fait, si vous avez énormément d'accrétion dans un sens, fatalement, vous aurez une matière qui va être éjectée d'une manière biconique, je dirais, de chaque côté de ce disque. Alors ça, ce sont des jets que l'on voit en radio, par exemple. Donc avec des radiotélescopes, on arrive très bien à voir ce genre de jets. Et d'ailleurs, le quasar 3C273 présente de tels jets, donc un de ces premiers quasars qui a été détecté.
Suzy Collinzane, qu'est-ce que vous voudriez ajouter à cette description que vient faire Pasquier Notre-Dame sur la nature, sur ce que c'est exactement finalement que ces quasars ?
Alors, moi, je vais pas ajouter pour le moment de rien à ce que vient de dire Pasquier, parce que j'aurais envie de raconter quand même quelque chose que j'ai vécu aussi, qui a été la lutte intense qui a eu lieu, qui a duré à peu près 15 ans, entre ceux qui croyaient que les quasars étaient effectivement des objets très lointains et ceux qui disaient c'est pas possible parce que justement vu qu'ils sont très lointains, ça veut dire qu'ils émettent énormément d'énergie, donc on va les rapprocher, on va dire que ce sont des objets proches, mais que leur décalage, le décalage spectral vers le rouge, parce que tous les quasars montrent ce décalage vers le rouge, est dû à un phénomène physique qu'on ne connaît pas encore, par exemple la fatigue de la lumière, ou bien d'autres choses, alors même encore moins connues, parce que à l'époque on avait déjà vaguement une théorie, des idées de que la lumière se fatiguait. Et donc pendant à peu près 15 ans, il y a eu une bagarre réellement entre les tenants des parce que des quasars lointains et des et ceux des quasars proches et de la fatigue de la lumière.
Oui, c'est une controverse vraiment jusque dans les années 80 à peu près, c'est cela?
C'est jusque dans les années 80, et moi je me rappelle avoir assisté à un congrès en 1977, où je peux vous dire que d'abord on croyait encore essentiellement aux quasars proches, disons que c'était moitié-moitié dans la communauté astronomique, et les gens sont venus aux mains. Donc, et par exemple, et dans le résumé des actes du colloque, eh bien on n'a pas voulu publier les controverses qui avaient eu lieu et qui étaient vraiment trop violentes entre les gens. Et puis d'un seul coup ça s'est éteint, parce que il y a eu cette théorie des trous noirs qui n'avait pas été acceptée réellement par les astronomes, mais elle était déjà proposée depuis longtemps par les théoriciens de relativité générale, par exemple. Donc, elle a fini par s'imposer parce que, en particulier, deux astronomes de Cambridge, en Angleterre, ont proposé un modèle qui collait très bien avec ce qu'on appelle des noyaux actifs de galaxies, c'est-à-dire le centre très dense d'une galaxie. Et à ce moment-là, bon, on peut dire que la controverse s'est éteinte, d'autant qu'on a réussi à observer, vraiment avoir des preuves observationnelles que les quasars étaient effectivement très éloignés.
Alors, allez-y, continuez. Vous vouliez rajouter quelque chose aussi par rapport à la description exacte de l'objet. On a parlé du trou noir supermassif, du disque d'accrétion et des jets de gaz. Il y a d'autres choses qui définissent le quasar plus précisément, Suzy Collinzam?
Non, pas réellement. C'est-à-dire que comme il est vous avez compris que le rayonnement est extrêmement important, vient en fait de l'environnement du quasar, c'est-à-dire des particules qui se rapprochent du quasar et qui rentrent en contact, si vous voulez, avec son atmosphère, cette espèce de disque d'accrétion. Et à ce moment-là, c'est comme une météorite qui tombe sur la Terre. Si c'est par exemple un rocher, une étoile, va se volatiliser, le gaz qui va être créé va être porté à des températures très élevées. Une partie va rentrer dans le trou noir, l'autre partie va être expulsée vers l'extérieur, et c'est comme ça que le rayonnement du quasar, à peu près la moitié de l'énergie de masse de la masse qui rentre dans le trou noir, c'est-à-dire correspondant à cette fameuse équation E égale MC2, bien presque la moitié de cette énergie peut être convertie en lumière. Donc, voyez, c'est quelque chose d'absolument énorme.
Je vais poser quelques questions un peu de béotien pour élargir un peu cette tentative de définition. On sait que, on l'a dit ici dans plusieurs émissions, que dans toute galaxie type spirale ou galaxie type galette, il y a un trou noir supermassif au milieu. Qu'est-ce qui distingue le trou noir supermassif qui est au centre du quasar du trou noir supermassif qui est au centre de la Voie lactée, par exemple, Pascal Notre-Dame?
Le trou noir qui se trouve au centre de la Voie lactée, il a des grandes chances que dans le passé ait été un quasar. Donc en fait, pour qu'il soit un quasar, il faut, comme l'a dit Suzy, qu'il y ait de la matière qui soit accrétée. À partir du moment où il n'y a plus de matière autour de ce trou noir, qu'il n'y a plus rien à manger, disons, le quasar cesse d'émettre, donc le trou noir s'éteint, n'émet plus de lumière. Et donc c'est pour ça qu'en fait la plupart des quasars, enfin même je veux dire tous les quasars que l'on observe, se trouvent à des distances très grandes dans l'univers, et on n'en observe plus aujourd'hui dans les galaxies qui sont proches. On n'observe plus que les trous noirs qui restent dans les centres.
Et autre question de Béotien, un trou noir, on a tous compris aussi ici au cours de l'émission, des nombreuses fois qu'on en a parlé, que c'est un endroit tellement dense que même la lumière ne peut pas en sortir. Or, on vient d'expliquer que les quasars sont les objets les plus lumineux de l'univers. Alors comment est-ce qu'on comprend qu'un trou noir puisse dégager à ce point-là, même si vous venez de le dire en quelques mots, Suzy Collinzam, mais peut-être le réexpliquer, comment expliquer qu'un trou noir supermassif puisse à ce point-là dégager de l'énergie et de la lumière?
Alors, comme je le disais, c'est parce que le gaz, puisque ça arrive finalement sous forme de gaz tout près du quasar, parce que tout est disloqué par ce qu'on appelle des effets de marée. Donc, ce qui arrive sur le trou noir, il y a une partie qui va être engloutie par le trou noir et l'autre qui se cogne à l'atmosphère, en quelque sorte, qui est le gaz qui est déjà présent, les poussières qui sont déjà présentes et qui va subir un échauffement très fort, et cet échauffement réchauffement le porte à incandescence, le porte à des températures de millions de degrés, et c'est ça qui va, c'est ce gaz incandescent qui va rayonner avant que il tombe définitivement et pour ne plus jamais en sortir dans le trou noir supermassif.
Question.
Donc c'est l'environnement. Oui. C'est, vous voyez, c'est l'environnement proche, très proche du quasar qui rayonne, mais ce n'est pas du trou noir, pardon, qui rayonne, mais ce n'est pas le trou noir lui-même. Alors il y a des idées qui circulent, comme quoi les trous noirs sont quand même capables de rayonner, en particulier une théorie de Stephen Hawking, comme quoi ils perdent tout de même du rayonnement très lentement, très très lentement.
Le rayonnement de Hawking, et d'ailleurs, qu'on appelle.
Le rayonnement de Hawking, c'est ça. Mais alors ça n'affecte pas du tout les trous noirs de masse comme ceux qui sont au centre de la galaxie, et ou des galaxies. Ça affecte des mini-trous noirs, tout petits. Alors quand je tout petit, ça veut dire que ils ont seulement, par exemple, le poids d'une montagne comme l'Everest, vous voyez. Mais alors, ils se trouvent quand même être minuscules avec ce poids, un trou noir, ça doit avoir des dimensions que je ne sais même pas par cœur. Ils sont des milliardièmes de millimètres, vous voyez. Et ceux-là, ils peuvent être volatilisés assez rapidement, perdre leur substance et disparaître. Et c'est d'ailleurs un des mystères qui n'est pas encore résolu à l'heure actuelle.
Et encore une question pour finir cette partie un peu descriptive des quasars. On a parlé, là, vous avez parlé l'un et l'autre tout à l'heure, de l'une de ses caractéristiques principales qui est la variabilité. Comment est-ce qu'on l'explique, cette variabilité d'énergie? Pourquoi, Pascal Notre-Dame, est-ce qu'un quasar, ça émet plus ou moins d'énergie, ou en tout cas dans une variabilité dans des temps très courts à l'échelle cosmologique?
Alors justement, les temps très courts, c'est ça qui explique le fait qu'il soit aussi petit. Enfin, disons, c'est plutôt l'inverse. Le fait qu'il soit tout petit explique des variabilités sur des échelles de temps très courts. En fait, la taille, les dimensions de la région d'émission des quasars, elle est contrainte, donc je parle du côté observationnel, elle est contrainte par l'observation de cette variabilité. Parce que vous pouvez imaginer qu'une partie, la partie par exemple la plus éloignée de cette région d'émission, va émettre une certaine quantité de lumière. Et la partie qui se trouve plus proche de nous, il faut qu'elle varie à peu près en même temps pour qu'on ait cette dimension. Donc en fait, si vous voulez, un objet qui est très grand ne peut pas varier sur des échelles de temps qui sont très petites. Donc l'échelle de temps, comme disait Suzy, nous avons une échelle de temps de l'ordre de la semaine, donc ça nous donne des tailles de cette région d'émission de l'ordre de la semaine-lumière. Alors pourquoi ça varie? Parce qu'en fait, le gaz qui a accrété toute cette matière qui va tomber dans l'environnement de quasar ne tombe pas de manière régulière. En fait, nous avons des espèces de grumeaux qui peuvent arriver à des moments ou d'autres. Et donc, le quasar peut absorber une quantité de matière à certains moments. Donc, c'est ça qui va faire que ça varie.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
16h24, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous parlons tout au long de cette heure des quasars, de ces objets très mystérieux, très denses et très lumineux. Nous en parlons avec deux astrophysiciens, Pasquier Notre-Dame ici en studio à Paris et Suzy Colinzane qui était avec nous en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Limoges. Alors, comme toujours, nous avons voulu aller voir ces quasars de nos propres yeux. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors, vous n'avez pas vraiment observé directement des quasars, mais vous avez pu en tout cas en voir des simulations numériques.
Et oui, je me suis rendu chez vous, Pasquier Notre-Dame, puisque je suis allé à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et c'est Johan Dubois qui a été mon professeur pour ce reportage. Son travail à lui, c'est pas directement l'observation des quasars, mais leur simulation et leur modélisation numérique. Pour le dire vite, en gros, il recrée grâce à des supercalculateurs les conditions des quasars pour comprendre comment ils fonctionnent. Johan Dubois nous en dit plus donc sur les liens entre quasars et galaxies et sur le rôle primordial des trous noirs supermassifs qui logent au cœur des trous noirs.
Il y a différentes classes de galaxies dans l'univers, des galaxies de très faible masse, des galaxies de très grande masse, des galaxies qui ressemblent à des disques, comme notre Voie lactée, avec des beaux bras spiraux les galaxies les plus belles, hein, souvent quand on veut vendre un petit peu l'astrophysique, quand on veut faire une vitrine des galaxies en astrophysique, on montre ce type d'objet. Mais il y a aussi une autre classe de galaxies très importante, c'est les galaxies elliptiques, qui sont les galaxies plus massives, souvent des galaxies très rouges, très uniformes, donc elles sont un peu ennuyeuses, hein, du point de vue de la beauté de la chose. Mais dans ces objets, on pense que les noyaux actifs de galaxies ont un rôle primordial pour réguler la quantité de matière au sein de ces objets, la quantité d'étoiles qui est formée, pour reproduire la couleur de ces galaxies et pour avoir la bonne morphologie.
Comment ça se matérialise ? Là, on a plusieurs images sous les yeux.
Donc ça, c'est une simulation, c'est une image d'une simulation qu'on voit aussi sur le grand panneau, là, de très grandes structures. Donc on voit ici la toile cosmique avec des grands vides de matière, des filaments cosmiques. Et à l'intersection de ces filaments cosmiques, on voit ces halos de matière très chaud, c'est du gaz qui tombe dessus, qui en tombant convertit une grosse partie de son énergie cinétique en énergie thermique et crée un choc. C'est pour ça que ces halos apparaissent très chauds. Et au sein de ces halos de matière noire et de gaz chaud se forment les galaxies, donc en tout petit, qu'on ne distingue pas sur cette image, mais si on était capable de zoomer, on verrait ces galaxies. Et on voit que ces galaxies peuvent avoir des morphologies très différentes, des galaxies type spirale, à disque, avec des beaux bras spiraux qui apparaissent, puis des galaxies plus elliptiques, plus lisses, plus homogènes et plus uniformes. Et donc l'un des problèmes ici qui est illustré sur cette image, c'est quand on faisait les premières simulations cosmologiques de grands bouts d'univers et qu'on oubliait de mettre ces trous noirs, ces noyaux actifs de galaxies au sein des simulations, on avait une constante dans ces simulations, c'est que les galaxies ressemblaient toutes à des galaxies de type disque. Elles étaient très spirales, très bleues, formaient plein d'étoiles, avaient beaucoup trop d'étoiles par rapport au ciel qu'on observait et ressemblaient pas du tout aux galaxies massives qu'on voit dans le ciel réel. Et donc, quand on a réparé ces simulations et qu'on a commencé à mettre ces trous noirs avec des noyaux actifs de galaxies, on a commencé un petit peu à reproduire les propriétés réelles des galaxies massives, c'est-à-dire donc des belles galaxies rondes, rouges, uniformes, homogènes, etc. Et donc, la raison pour laquelle cela apparaît, c'est que lorsqu'on met des trous noirs au sein des galaxies massives, ces trous noirs, par le processus de rétroaction, en injectant de l'énergie, soit sous forme de photons, ces photons vont se coupler au gaz et vont pousser le gaz autour, ou sous forme de jets, de jets radio, vont permettre de réguler la quantité de matière au sein des galaxies et vont tuer la formation d'étoiles. Et tuer la formation d'étoiles dans une galaxie massive, donc forcément ça change la quantité de matière qui est formée en étoiles, mais aussi un impact sur la morphologie, puisque les galaxies ne se forment plus par formation d'étoiles, ce qu'on appelle in situ, donc dans la galaxie principale, c'est plus là que se forment les étoiles, mais elles se forment dans les objets qui sont autour. Dans les galaxies massives, autour des galaxies massives, il y a plein de galaxies qu'on dit satellites, parce qu'elles orbitent, elles sont dans le champ gravitationnel de cette galaxie massive, elles orbitent autour, vont éventuellement être absorbées, mangées, vont fusionner avec cette galaxie massive, mais ces galaxies continuent de former des étoiles, et vont s'assembler à la galaxie principale, et comme ces galaxies viennent plutôt de toutes les directions, c'est pas tout à fait vrai, elles ont des orbites préférentielles, puisqu'elles viennent de la toile cosmique, des filaments, mais elles viennent plutôt de directions aléatoires, et donc ces directions aléatoires vont construire un objet qui est assez chaotique, donc qui a plus vraiment de rotation comme les galaxies spirales, mais dont les étoiles vont se balader de manière très chaotique et vont former ces objets très lisses, très ronds. Donc vont changer la morphologie de ces objets, de ces galaxies. Donc les trous noirs supermassifs au centre des galaxies vont de quelques dizaines de milliers de fois la masse de notre Soleil à 1 million, voire plusieurs millions de fois la masse de notre Soleil au cœur des galaxies plus massives. On voit régulièrement ces trous noirs les plus massifs au centre des galaxies plus massives et surtout proches de nous, parce que c'est plus facile d'observer les objets proches de nous, évidemment. Mais maintenant qu'on regarde les objets plus lointains, parce qu'on a des télescopes qui sont de meilleure et de meilleure qualité, donc plus loin de nous veut dire dans l'univers très jeune, et quand on regarde ces trous noirs supermassifs, les plus brillants, on se rend compte qu'ils ont déjà la masse des trous noirs les plus massifs proches de nous, ça veut dire qu'ils sont déjà construits, les trous noirs les plus massifs, très tôt dans l'univers, et c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'il faut leur faire tomber sur la tête des quantités énormes, gigantesques de matière et de gaz à absorber pour les construire, et c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, qui est une thématique de recherche assez active. Et on pense que puisqu'on leur fait, on les alimente en gaz de façon très efficace, très tôt dans l'univers, l'énergie qu'ils libèrent va être encore plus prodigieuse, et donc l'impact sur la galaxie va être encore plus fort. Donc c'est quelque chose, à mon avis, de super excitant, en tout cas dans la thématique de recherche sur les quasars.
Voilà le reportage du jour chez vos collègues Pasquier Notre-Dame à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Alors, je trouve que Johan explique très bien sa thématique de recherche. Bon, alors, bon, Johan, c'est quelqu'un qui fait des simulations. Alors là, donc, ce qu'il expliquait, globalement, c'est en fait la coévolution du trou noir avec la galaxie hôte. Mm-hmm. Et en fait, il a expliqué le fait qu'il y ait un quasar, enfin, un noyau actif dans une galaxie, va avoir des conséquences sur la morphologie, sur le taux de formation stellaire dans cette galaxie. Donc ce n'est pas vraiment la physique de l'engin central, disons, du trou noir ou du disque d'accrétion dont parlait Suzy tout à l'heure, mais c'est plus l'effet global de la présence d'un trou noir supermassif. Mmh. En général, on en a dans une galaxie.
Mmh. Suzy Colinzan, pareil, une réaction à ce que vous venez d'entendre?
Écoutez... Si vous me permettez, j'aimerais revenir en arrière, parce que la langue me brûle quand même, d'ajouter quelque chose. Tout à l'heure, Pasquier parlait de notre galaxie, la Voie lactée, alors qui possède un trou noir qui est tout petit, ce qui d'ailleurs est considéré comme une preuve que la Voie lactée n'a pas subi de grosses collisions avec une autre galaxie aussi grosse qu'elle dans le passé, et que probablement ça risque d'arriver par contre dans l'avenir, parce que on prédit que la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, va dans 4 milliards d'années à peu près rencontrer la galaxie d'Andromède. Mmh. Et à ce moment-là, les deux galaxies vont fusionner. Les deux trous noirs de ces galaxies vont également se rapprocher l'un de l'autre, fusionner, probablement d'ailleurs en donnant naissance à ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, dont vous savez certainement qu'elles ont été observées maintenant réellement, mais pas en provenance de trous noirs supermassifs, mais en provenance de trous noirs qui ont des masses de quelques 10 ou 20 masses solaires.
Oui, dizaines, un peu plus que ça, oui.
Oui, 30. Mais ce que je voulais dire, c'est que le trou noir de notre galaxie présente une propriété quand même qui est sa variabilité, justement, et que en particulier, on sait qu'il y a 300-400 ans à peu près, il a été plus brillant parce que on observe des nuages moléculaires à 300 années-lumière du trou noir qui ont été éclairés, qui ont reçu des jets de rayons cosmiques et de lumière venant du trou noir de notre galaxie qui maintenant sont visibles 300 ans après, vous voyez. Et donc ça, c'est une preuve déjà que notre trou noir a été plus actif, probablement beaucoup plus actif il y a quelques centaines d'années, mais on sait aussi qu'il a été beaucoup beaucoup plus actif il y a environ 5 millions d'années, où il aurait probablement eu justement la luminosité d'un petit quasar ou d'un noyau actif de galaxie bien actif. Mais bon, ça n'a pas d'incidence sur la vie, en particulier les hommes qui à cette époque-là étaient déjà présents sur Terre, n'ont rien ressenti, mais n'empêche que si on avait été là, nous, pour observer le trou noir de notre galaxie, eh bien, on aurait certainement observé, enfin, son environnement, quelque chose de beaucoup plus brillant que maintenant. Voilà, je voulais juste dire ça.
Ah, mais vous faites bien, c'était passionnant, vous faites bien de le préciser, ce qui m'amène d'ailleurs à la question suivante, si on considère qu'effectivement, puisqu'on l'entend et on en discutera d'ailleurs un peu plus avant tout à l'heure, que les quasars seraient donc, en quelque sorte, à l'origine de la naissance des galaxies, mais sont-ils à l'origine ou sont-ils au contraire finalement des dévoreurs de galaxies? On posera la question plus en amont tout à l'heure. Mais comment naît, c'est quoi là? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a connaissance de la naissance aujourd'hui de l'apparition d'un quasar, Suzy Colinzan?
Alors écoutez, c'est ce qu'a dit Pasquier. L'apparition d'un quasar, c'est lorsqu'il y a déjà une galaxie autour qui permet au trou noir de recevoir, d'accréter de la matière. Et à ce moment-là, ce trou noir, son environnement devient brillant. Mais ça ne veut pas dire qu'avant il n'existait pas. Simplement, la matière qui tombait dessus n'était pas encore suffisamment importante pour que ça le fasse briller. Alors ça, tout à l'heure, je pense que c'est Pasquier qui va l'expliquer, c'est lié justement à la naissance, d'ailleurs qu'on comprend pas bien, de ces trous noirs qui ont déjà été super massifs probablement dans un passé lointain, au moment enfin moi je pense que au moment où la galaxie était en train de se former, le trou noir se formait aussi, et peut-être qu'il avait déjà acquis une masse importante. Mais en tout cas, on verra le quasar apparaître seulement lorsque la quantité de matière qui tombe dessus sera suffisamment importante pour qu'il rayonne, et qu'il rayonne énormément, puisque à ces distances-là, enfin des objets qui ont 10 milliards, qui ont vécu il y a 10 milliards d'années et qui sont distants, disons, de 10 milliards d'années-lumière, mais ça n'a pas grand sens de dire cela parce que ils sont beaucoup plus distants maintenant. Donc ces objets qui ont vécu il y a 10 milliards d'années, eh bien, ils ne se sont mis à rayonner que à un certain moment, quand il y a eu beaucoup de matière qui est tombée dessus, sur le trou noir. Voilà. Donc, je pense que maintenant, c'est plutôt à Pasquier de continuer à répondre à votre question.
Et justement, alors, Pasquier Notre-Dame, la question, c'est de, finalement, le corollaire à cette question, c'est de savoir comment se forment ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Et ça, pour le moment, il y a encore plusieurs hypothèses, on n'est pas tout à fait sûr, puisque ça va de pair avec la question de la formation des quasars.
Oui, d'ailleurs, c'est une question auxquelles je ne sais pas répondre. En fait, donc, c'est plutôt des personnes comme Johan Dubois, donc, que vous avez interviewé, qui cherchent à étudier comment on arrive à former des trous noirs supermassifs en un laps de temps qui est très court. Parce qu'en fait, ces quasars, on les observe il y a très longtemps, donc peu après le Big Bang. Mmh. Et donc, les grandes questions sont de savoir comment on arrive à former ces trous noirs supermassifs en un temps finalement très court. Maintenant, moi, j'ai pas de réponse vraiment à cette question. Il y a l'alimentation donc du trou noir pour augmenter sa masse par la matière environnante, donc par la galaxie. Mais on sait que voilà, les quasars et les galaxies vont se former plus ou moins en même temps. En fait, hein. On a deux phénomènes qui sont gravitationnels. Donc, nous avons la gravitation qui va attirer de la matière, donc qui va nous permettre de former à la fois la galaxie et le trou noir. C'est d'une manière très simplifiée. Mais je dirais qu'en fait, c'est pas la galaxie qui forme le trou noir ou le trou noir qui forme la galaxie. Elles vont plutôt se former en même temps. Mais par contre, il y a bien un effet de l'un sur l'autre, en fait.
Alors, justement, tout récemment, à mi-mai, des astrophysiciens ont observé trois quasars tels qu'ils étaient il y a 13 milliards d'années, donc très près, très peu de temps à l'échelle cosmologique après le Big Bang, 1,5 milliard d'années à peine. Et ces trois quasars posent un certain nombre de questions complexes, à commencer par comment ont-ils pu se former si vite. On parle d'environ 100 000 ans, c'est ce que vous disiez, Pasquier Notre-Dame, pour des masses qui sont plusieurs milliards de fois, celles du Soleil.
Oui, effectivement,
c'est
une très bonne question, c'est une question ouverte, je dirais. Moi, ça sort un petit peu de mon domaine, en fait, donc je pourrais en parler un petit peu tout à l'heure. Oui, je n'ai pas de réponse là-dessus.
C'est une énigme qui n'a pas de... Il y a quelques théories tout de même, Suzy Collinzane, sur ces
oui,
trois quasars.
Oui. Non, c'est pas sur ces trois quasars, mais sur le problème plus général de la formation extrêmement rapide de trous noirs supermassifs. Eh bien, le gros problème, c'est que quand de la matière tombe sur un trou noir, elle rayonne. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mmh. Et elle rayonne tellement que la pression de ce rayonnement repousse la matière qui va tomber, qui continue à tomber dessus. Donc, il y a une espèce de limite à la quantité de rayonnement et de matière qui peut rentrer dans un trou noir lorsqu'il a une masse donnée, c'est-à-dire, si vous voulez, un champ gravitationnel donné, parce que c'est ce champ gravitationnel qui va s'opposer à la pression du rayonnement. Donc, le gros problème, c'est de franchir cette étape, de savoir comment on va réussir à faire tomber de la matière sans que son propre rayonnement la repousse. Alors, là-dessus, il y a différentes théories, et bon, il y en a une qui est très simple, tout simplement, c'est que tant que la masse du trou noir n'est pas très élevée, disons qu'elle est inférieure à 100 millions de masses solaires, ça vous paraît énorme, mais c'est les masses les plus importantes des trous noirs qu'on observe maintenant dans les quasars très éloignés, c'est plutôt de l'ordre du milliard de fois la masse du Soleil. Donc, tant que la masse du trou noir est inférieure à 100 milliards 100 millions, pardon, de masse du Soleil, eh bien, les étoiles elles-mêmes sont capables de tomber dedans sans être cassées, sans être brisées par ce qu'on appelle l'effet de marée, c'est-à-dire le fait que la gravitation sur la face de l'étoile qui est proche du trou noir et celle qui lui est opposée soit très différente, et du coup l'étoile est brisée, elle n'arrive pas à maintenir sa cohésion, elle est brisée en gaz et naturellement le gaz va rayonner. Eh bien, tant que le trou noir a moins de 100 millions de masses solaires, les étoiles peuvent rentrer dedans, à condition qu'elles soient denses, c'est-à-dire que ce soit des étoiles naines, comme le Soleil par exemple. Bien entendu, une étoile géante ne pourra pas tomber dans le trou noir sans être disloquée. Mais les étoiles naines, a fortiori des étoiles comme des étoiles à neutrons, vont tomber dans le trou noir sans être brisées, et il va pouvoir accumuler de la masse comme ça, sans rayonner. Donc ça, c'est une façon de faire grossir un trou noir sans qu'il rayonne et qu'il chasse la matière. Alors il y en a d'autres qui sont des théories physiques qui consistent à réussir à faire tomber du rayonnement qui soit gardé en boule en quelque sorte et qui ne ressorte pas vers l'extérieur. Mais ça, ce sont des théories qui sont en dehors de ma compétence. Mais en tout cas, en ce moment, il y a des théoriciens qui travaillent là-dessus. Donc tout le problème, comme je vous dis, c'est de trouver un moyen pour que la matière tombe sans rayonner.
Et un dernier mot avant de passer à la dernière partie de l'émission, puisqu'on a parlé de la naissance des quasars. Si les quasars sont ces trous noirs supermassifs qui engloutissent donc à ce point-là et à des machines à dévorer de l'énergie telle que nous sommes en train de les décrire, est-ce que l'on sait aujourd'hui à quel moment le quasar s'éteint? Quel est l'horizon, le seuil d'énergie dévorée qui fait qu'un quasar va s'éteindre et va donner lieu juste à un trou noir supermassif tel qu'on le connaît au centre des galaxies classiques, Pascal Notre-Dame?
Alors là, en fait, il va s'éteindre qu'il n'aura plus de matière autour à accréter. Et donc, en fait, il y a même des cas où ça a été observé. Donc, on connaît des quasars qui ont été observés il y a une dizaine d'années en tant que quasar. On avait le spectre, c'était effectivement un quasar. Et on l'observe 10 ans plus tard. Et ce n'est plus un quasar, c'est devenu une galaxie. Le quasar s'est vraiment éteint parce qu'il n'y a plus de matière autour à accréter. Donc ce n'est pas vraiment le trou noir lui-même qui va définir à quel moment il va s'éteindre ou pas. C'est la disponibilité de matière aux alentours.
Et du fameux nuage de gaz alentour.
Voilà.
Et une question, ça a une durée de vie moyenne, un quasar ?
Durée de vie moyenne, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça dure très longtemps. Maintenant, on sait que dans l'univers proche, il n'y a plus de quasar. On n'en voit plus, donc disons qu'on en observe dans l'univers lointain, il y a 10, 12, 13 milliards d'années, maintenant on n'en observe plus. Alors maintenant, une durée de vie moyenne, je dirais que ce sont ce genre d'échelle de temps, mais voilà, sur donc, l'univers jusqu'à 2, 3 milliards d'années, on n'en voit plus, donc ils se sont éteints. In my eyes, in this cold, in this guise, no one knows, hides the face, lies the sun in mighty gray, boiling heat, summer's touch, in the black the sky looks dead, call my name through the cream, and I'll hear you scream again, black old sun, won't you come, and wash the rain away, black old sun, won't you come, won't you come. All right, Sancho. Sounds good.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
la reprise de Black Hole Sun par Handsome Hank and His Lonesome Boys. Il est 16h45, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons des quasars tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Pasquier Notre-Dame, qui est astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, et Suzy Collin-Zanne, qui est astrophysicienne et chercheur honoraire à l'Observatoire de Paris-Meudon, qui est avec nous en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Limousin. Alors, s'il nous reste encore pas mal de choses à apprendre, on l'entend sur les quasars et on en reparle dans quelques secondes. Je posais au tout début de l'émission cette question de l'œuf ou la poule cosmologique. Est-ce que on entend à la fois des quasars qui dévorent l'énergie et la matière qui est autour d'eux et qui finissent par éteindre en quelque sorte des galaxies, ou au contraire des quasars qui finissent par, dans leur jet de gaz, on constate parfois de l'accélération de la formation d'étoiles. Alors, qu'est-ce qui vient en premier ? Est-ce que c'est la galaxie qui vient en premier, et ou est-ce que c'est le quasar ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a une idée un peu de cette espèce de problème insoluble de l'œuf ou la poule, Suzy Collin-Zanne ?
Ah, écoutez, je préfère laisser cette réponse à Pasquier.
Alors, Pasquier Notre-Dame.
Oui, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment l'œuf ou la poule. Hein. Ils sont vraiment apparus, on va dire qu'il y a une interaction entre les deux, donc entre ce noyau actif et la galaxie. Alors, effectivement, le noyau actif va avoir tendance à supprimer un petit peu de formation d'étoiles dans la galaxie et haute. Mais d'un autre côté, il peut y avoir des jets qui vont comprimer le gaz à d'autres endroits, donc par exemple sur des parties satellites de la galaxie, et au contraire, alimenter plus fort la formation d'étoiles. Donc on a du gaz quelque part qui est compressé, il aura tendance à former des étoiles. D'un autre côté, donc voilà, à la fois le quasar et la galaxie ont besoin du gaz, l'un pour rayonner et l'autre pour former des étoiles. Mm-hmm. Donc forcément, il y a une espèce de petite dispute là aussi. Et on a aussi un effet dans l'autre sens, donc le fait que les galaxies forment des étoiles, ces étoiles vont mourir, vont exploser, vont faire des vents et vont éjecter une partie du gaz en dehors de la galaxie. Donc c'est qu'en fait, finalement, assez complexe, il y a des tels transferts de gaz entre...
D'énergie, de matière.
Voilà, exactement.
Il y a 3-4 ans, je crois, on a pu être observé ce qu'on pensait être un quasar nu. Alors son petit nom, son doux nom, c'est HEO 450-29-58. Ça se passe à 4 milliards d'années-lumière de chez nous. Et de fait, il y avait un quasar nu et une galaxie à côté. Et à force d'observation, on a pu constater finalement une sorte de pont de matière entre ce quasar et la formation d'étoiles dans une galaxie, avec l'idée de se dire que peut-être dans l'univers primordial, eh bien c'est effectivement ces ponts de matière qui pourraient être à l'origine de la formation des galaxies. Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas du tout travaillé sur cet objet. D'ailleurs, si on a un petit peu de temps dans l'émission, j'aimerais parler de ce qu'on peut faire avec les quasars, mais qui ne sont pas sur les quasars eux-mêmes.
Tout à fait.
Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas plus alors, sur cet objet.
Mais... Parlez-nous précisément de ce qu'on peut faire avec les quasars, parce qu'il est Notre-Dame.
Là, on peut parler. Voilà, d'autres choses. Donc, les quasars, c'est quelque chose d'extraordinaire en soi. Donc, à la fois par cette physique complexe, disons du trou noir avec son disque d'accrétion, puis un tore autour également, et puis l'interaction avec la galaxie haute. Donc, on a bien le quasar qui est à chaque fois dans une maison, donc qui est la galaxie. Mais le fait simplement que ce soit des objets qui sont extrêmement lumineux et qu'on arrive à détecter donc à des distances absolument faramineuses nous permet d'étudier en fait toute la matière qui se trouve entre le quasar et nous. C'est-à-dire toute de la matière qui ne va pas forcément émettre de la lumière, d'ailleurs qui n'en émet pas du tout, comme le gaz, le milieu intergalactique, donc dont on pense qu'il est vide, mais en fait il n'est pas complètement vide, il contient de la matière, il contient du gaz, et même des galaxies qui peuvent se trouver entre les quasars et nous-mêmes.
Ce qui fait un peu l'effet d'un phare en pleine mer, quelque chose comme ça, qui éclairerait un peu tout l'univers autour.
C'est exactement ça. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'absorption. Donc, en fait, la matière qui se trouve entre le quasar et l'observateur crée de l'absorption. Donc, elle absorbe une partie de la lumière du quasar, fait des raies d'absorption. Et en étudiant ces raies, on peut en déduire énormément de choses. Alors là, c'est assez extraordinaire, parce qu'on peut à la fois étudier, donc, comme je disais, le milieu intergalactique, et on peut retrouver les grandes structures du milieu intergalactique, donc de l'empreinte un petit peu des premières oscillations, enfin les premières distributions de matière dans l'univers jeune, on les retrouve dans la distribution du gaz intergalactique, ce qu'on appelle les oscillations acoustiques de baryons. Et on peut aussi étudier donc les galaxies, donc le gaz qui se trouve dans les galaxies qui sont tout à fait normales, hein, pas forcément des galaxies à noyaux actifs, et qui vont se trouver par hasard entre le quasar et nous. Et donc en regardant les quasars, on peut étudier la composition chimique de ce gaz, on peut en calculer l'état physique, la température, la densité. Mmh. Et puis on a d'autres applications qui sont vraiment complètement différentes.
Comme par exemple
l'étude de la variation des constantes fondamentales de la physique. Mmh. Donc vous savez que la physique est régie par un certain nombre de constantes fondamentales dont on se dit, bon, bah, elles sont constantes, mais est-ce qu'on a pu le vérifier ?
Jusqu'à preuve du contraire.
Mais
elles résistent bien, ces constantes.
Alors, quand on parle de variation de constantes, c'est un peu rigolo. Mmh. Mais effectivement, on peut mesurer, par exemple, il y a des molécules qu'on va trouver dans du gaz, donc sur la ligne de visée des quasars, et en regardant la longueur d'onde de différents traits de ces molécules, et en le comparant avec ce qu'on observe dans le laboratoire, on peut mesurer, par exemple, le rapport de la masse du proton à celle de l'électron. Mmh. Alors, vu qu'on observe ça dans des distances qui sont très, très éloignées, on a une échelle de temps qui est énorme. Et donc, on peut voir si, effectivement, le rapport de la masse du proton à celui de l'électron était le même il y a 10 milliards d'années. Mmh. Alors, il faut savoir que les mesures qui ont été faites, justement, par cette technique des raies d'absorption dans l'espace des quasars, était tellement précise qu'il a fallu revoir nos collègues des laboratoires, leur demander de faire des mesures plus précises de leur côté.
Mmh. D'accord, donc c'est-à-dire que les mesures observationnelles étaient plus précises que les mesures en laboratoire.
Exactement. Mmh.
D'accord. Aujourd'hui, quels sont les instruments privilégiés précisément pour observer ces quasars ? On sait que, heureusement, les techniques d'observation ont beaucoup augmenté. On sait que Hubble a permis de voir et de distinguer, d'observer directement certains quasars. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on les observe mieux depuis l'espace ? Est-ce qu'on les observe mieux depuis la Terre ? Est-ce qu'on va mieux les observer, je pense, à la construction de certains télescopes géants sur Terre qui sont en cours, notamment le télescope européen. Dites-nous un peu comment ça progresse tout ça.
Oui, alors là je pense que c'est une question qui est très vaste, donc je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. Mmh. Alors, en fait, comment on observe les quasars ? Alors, tout dépend de ce qu'on veut en faire, hein. De quel type d'observation, si on veut l'utiliser pour étudier les propriétés des quasars, ou si on veut étudier justement ce qui se trouve sur la ligne de visée, enfin le quasar. Donc, ce sera des observations qui sont différentes. Mais donc, cette question amène d'abord, comment détecte-t-on les quasars ? Mm-hmm. Alors, les quasars, comme on l'a vu au tout début, ils sont appelés quasars parce qu'ils ressemblaient à des étoiles. Donc, si vous prenez une image du ciel et vous voyez une étoile, enfin, ça pourrait très bien être un quasar. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans le ciel, il y a beaucoup plus d'étoiles que de quasars. Donc les quasars sont des sources ponctuelles qui apparaissent. Donc sur une image, ça ressemble très fort à une étoile. On voit juste un point. Mais en fait, les quasars ont des couleurs qui sont différentes. Mmh. Donc si vous prenez des photos du ciel dans différentes bandes spectrales, et en regardant les couleurs donc de ces objets, vous pourrez distinguer le quasar parmi les milliers d'étoiles qui se trouvent sur votre photo. Donc c'est comme ça que les quasars sont d'abord sélectionnés. Et alors on dit, bon, on a des grandes chances que tel objet est un quasar. Le seul moyen après d'aller vérifier, c'est de prendre un spectre. Mmh. Alors ça se fait, par exemple, en ce moment, ça se fait avec un petit télescope, finalement. Télescope de 2,5 mètres qui se trouve au Nouveau-Mexique, qui est celui de la Fondation Sloan. Et donc pour l'instant, en utilisant ce genre de technique donc de sélection par leur couleur et puis d'aller vérifier avec un petit spectre, nous avons détecté à peu près 500 000 quasars. Donc c'est quand même quelque chose de...
relativement fréquent.
En fait, non. Finalement, dans le ciel, c'est un objet qui est rare, finalement, pour une certaine magnitude donnée. Mais on a observé à peu près 500 000. Donc là, c'est un nombre considérable par rapport à ce qui était connu il y a même 15 ans. Mmh. Voilà. Une fois qu'on a ces quasars-là qui sont bien confirmés, tout dépend de ce qu'on va en faire. Donc on peut les utiliser directement pour sonder des parties qui sont plus denses dans l'univers, enfin, où il y a plus de galaxies, puisque les quasars vont nous dire à tel et tel endroit, on aura plus de probabilité d'avoir des groupes de galaxies. Mais on peut aussi les utiliser pour étudier tout ce qui se trouve sur la ligne de visée, donc le milieu intergalactique, etc. Mmh. Et si on veut aller étudier, par exemple, la variation des constantes de la physique, ou alors faire des études précises des conditions physiques et chimiques du gaz des galaxies qui se trouvent entre le quasar et nous, alors on est obligé d'aller sur des télescopes qui sont beaucoup plus gros. Alors, par exemple, moi, j'utilise beaucoup le télescope européen qui se trouve au Chili. Mmh. Donc, c'est le Very Large Telescope.
Le VLT, oui.
Le VLT, tout à fait. Et on va aller observer, prendre des spectres à haute résolution. Mmh. Alors, haute résolution, ça veut dire que le spectre, l'arc-en-ciel dont parlait Suzy au début, mmh. on va dire que le bleu, ben, on arrive à faire différentes nuances de bleu. Mmh. Alors, c'est pas 50 nuances de bleu, mais ce sera plutôt 10 000 nuances de bleu.
C'est ce qui est plus intéressant. Ouais.
Voilà. Mmh. Et donc, avec ça, on arrivera à avoir des mesures extrêmement précises, par exemple, de la température de ce gaz. Mais il faut des très gros télescopes pour cela.
Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Aujourd'hui, juste un mot peut-être, Suzy Collinzane, là-dessus, l'augmentation de la précision des outils d'observation, de mesure par rapport à ce qu'elles étaient quand vous avez observé les premiers quasars, comme vous nous l'évoquiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on va de plus en plus loin, on voit de plus en plus précisément, on arrive vraiment de plus en plus proche de la réalité de ces quasars.
Écoutez, je vais me permettre de répondre un tout petit peu à côté de la question,
oui,
c'est-à-dire sur quelque chose que Pasquier n'a pas abordé. Mmh. C'est quelque chose un domaine très important pour observer les quasars et les noyaux actifs de galaxies, ce sont les hautes énergies, c'est-à-dire l'X et les gamma. Et dans ce domaine-là, on a fait des progrès absolument gigantesques, naturellement depuis 60 ans, puisque à l'époque, les satellites n'existaient même pas, les satellites astronomiques. Donc, on a observé maintenant, on observe systématiquement dans le domaine X et dans le domaine gamma des quasars, et d'ailleurs on s'est aperçu que le rayonnement X du ciel était essentiellement dû à des noyaux actifs de galaxies et à des quasars. Et il y a autre chose. On observe depuis quelques années dans des domaines des gamma, c'est-à-dire des rayons vraiment très énergétiques, alors des rayons très très puissants, c'est le TeV, c'est-à-dire les tétraélectronvolts, c'est sachant que le MeV, c'est-à-dire le million d'électronvolts, c'est le domaine des bombes nucléaires, par exemple, typiquement. C'est ce qu'on appelle le domaine X. Eh bien, on s'est aperçu que dans ce domaine, il y a en particulier une série de quasars, un type de quasar qui rayonne énormément. C'est ce qu'on appelle les Bela, qui sont des quasars dont le jet est dirigé pas très loin de notre propre direction. Et donc, par suite d'un effet qui est un effet relativiste, le rayonnement de ce jet est amplifié et on peut aller observer jusqu'à maintenant 10 TeV. Je crois qu'on atteint bientôt 100 TeV. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans ce domaine-là, les quasars continuent à rayonner encore. Donc, ils ont cette propriété absolument extraordinaire de rayonner depuis certains, le domaine radio, pas tous, mais en tout cas le domaine du visible, jusque dans le domaine des rayons gamma très énergétiques. Et je pense que de ce côté-là, d'ailleurs dans mon propre labo, on suit de très près, on fait une expérience, ça s'appelle S, c'est un télescope qui mesure justement les rayons gamma très énergétiques, et je pense qu'on va aller maintenant très loin dans ce domaine-là. Et là aussi, on va apprendre de nouvelles choses concernant les quasars.
Eh bien, on va suivre ça avec attention de très près. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Suzy Collinzane. Merci, Pasquier Notre-Dame, Suzy Collinzane. Hein, je renvoie à nos auditeurs, si vous voulez aller plus loin, à votre ouvrage « Des quasars au trou noir » aux éditions EDP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos collègues de France Bleu Limousin à Limoges qui ont rendu ce duplex possible, l'émission que vous pouvez, évidemment, comme chaque jour, la réécouter, la télécharger, la podcaster en vous rendant sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Et demain, nous reviendrons sur notre histoire grâce aux instruments du futur, paléogénétique, thermoluminescence, toutes ces nouvelles techniques qui nous poussent à nous demander s'il faut ou non réécrire l'histoire des origines de l'humanité. Nous en parlerons notamment avec Jean-Jacques Hublin et sa découverte récente d'Homo sapiens au Maroc. Dans quelques instants, le troisième âge joyeux dans le deuxième épisode de la série documentaire sur la vieillesse signée Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.